France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec le démographe Hervé Lebras qui nous fait l'honneur de rester avec nous jusqu'à 20h. Et pour cause, il y a encore beaucoup à dire sur la présidentielle. Géographie, sociologie, report de voix, tout cela mérite qu'on s'y arrête car dans 6 semaines, eh bien, on remet le couvert avec les législatives. Comme à chaque fois, Hervé Lebras a tout détaillé, carte à l'appui, et cela nous en apprend beaucoup sur notre pays. On s'arrêtera notamment sur ces départements où Marine Le Pen est arrivée en tête dimanche dernier pour la première fois. C'est le cas du Lot-et-Garonne, même les habitants n'en reviennent pas.
Je comprends pas en fait. Ici, on est dans un village tranquille, l'insécurité on connaît pas, les trafics on connaît pas. Qu'est-ce qui pousse les gens à voter à l'extrême droite aujourd'hui, ici quoi ?
On ira aussi en Haute-Marne, où ceux qui ont voté pour l'extrême droite ne cachent pas leur déception.
On aurait dû essayer, qu'on essaye.
On va attendre que la petite nièce, elle se mette en route.
Si ça va pas, ma foi, on l'agite et puis c'est tout.
Hein. La petite nièce, c'est Marion Maréchal qui a rejoint Éric Zemmour, adepte de la théorie du grand remplacement. Il en sera question là aussi, car le dernier livre d'Hervé Lebras s'intitule précisément « Il n'y a pas de grand remplacement ». Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gould, la chronique de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1, consacré ce soir aux résultats de la présidentielle en Outre-mer. Et puis, une rencontre dans cette émission avec la nouvelle doyenne de l'humanité, une Française, Sœur André, 118 ans, parfaitement remise du Covid.
J'ai fait cette saleté de maladie, alors ça ne m'a pas arrangé. Je me suis sacrifiée bien des fois et je l'ai fait avec joie et plaisir.
L'espérance de vie, en voilà un beau sujet pour un démographe, surtout en plein débat sur les retraites. À 19h, le journal de Claire Chaudière. À 19h20, le téléphone sonne ce soir. Les raisons justement du vote d'extrême droite, ou plutôt des extrêmes droites, car ce ne sont pas forcément les mêmes partout. C'est vrai en France, c'est vrai aussi en Europe. Hervé Lebras publie d'ailleurs Le Grand Enfumage, populisme et immigration dans 7 pays européens. On parlera aussi des négociations en cours à gauche pour les législatives, car le paysage politique est en pleine recomposition. Alors, n'hésitez pas à composer le 01 45 24 7000. D'avance, merci à tous, ainsi qu'à Magdalena Hervada, à nos standardistes, ainsi qu'à Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Gilles Gaillard, qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Hervé Lebras.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, merci d'être avec nous jusqu'à 20h. Emmanuel Macron a donc été réélu dimanche avec 58,55% des voix contre 41,45% à Marine Le Pen. Le président l'a emporté dans 73 départements métropolitains. Marine Le Pen, elle, s'impose dans plus de 18 000 communes. Mais tout cela cache évidemment de fortes disparités. Quels sont, Hervé Lebras, pour vous les grands clivages de ce scrutin ? Si je vous dis Emmanuel Macron, roi des villes, et Marine Le Pen, reine des champs, est-ce que c'est bien résumé ou est-ce que c'est pas aussi simple ?
C'est pas aussi simple. Hein. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension régionale, on peut dire, qui est extrêmement stable depuis, au fond, depuis 1984, à quelques exceptions près. Et puis, il y a la dimension que vous citez, qui est une opposition qui a grandi entre les villes, et puis, disons, les grandes villes surtout, et puis les zones rurales. Mais il faut bien voir qu'en fait, il y a trois profils. Le profil de Marine Le Pen, au premier tour, c'est un peu plus de 30% dans les communes rurales. Et puis on descend, et dans les grandes villes, on est à 12%, et à Paris, à 5,5% au premier tour. Mais Macron ne fait pas une aussi grande différence. Il est, au fond, il est fort à peu près partout. Il monte, disons, de 22, au premier tour, il est entre 22-23% dans les zones rurales, puis il monte à 30% dans les grandes villes. La grosse différence, c'est créée par Mélenchon, qui lui, et a fait mauvais score dans les zones rurales, même un peu inférieur à ceux qu'il avait fait 5 ans auparavant. Il est à 15%, disons, dans les zones rurales, en moyenne, et il est à plus de 30% dans les grandes villes. Donc, assez curieusement, c'est plutôt, en termes de villes et de campagne, c'est plutôt une opposition entre Marine Le Pen et puis Mélenchon. Ceci dit, au second tour, comme une grande partie, en fait, de l'électorat Mélenchon a rejoint Macron, alors ça s'est creusé. Ça s'est même aussi creusé, alors dans l'autre sens, pour Marine Le Pen, où entre le premier et le second tour, l'écart s'est encore un peu accru entre les zones rurales et puis les grandes villes.
En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que Marine Le Pen progresse sur les terres de prédilection du Front National, du Rassemblement National.
Alors ça, c'est la seconde dimension. La seconde dimension, elle est vraiment régionale et depuis 1984, elle réussit, disons, presque deux fois plus dans une grande bande nord-est, ce qui est font la France, qui est au nord d'une ligne à peu près, disons, Le Havre-Belfort, grosso modo. Et puis sur toute la zone méditerranéenne, avec une assez grande profondeur, près de 100 kilomètres. Et on en reparlera peut-être dans la vallée moyenne de la Garonne, c'est-à-dire les...
Alors justement, Hervé Lebras, parce que jusque-là, dans le sud-ouest, il n'y avait pas vraiment de percée de l'extrême droite. Mais c'est vrai que cette fois-ci, dans certains départements, le score réalisé par Marine Le Pen est une surprise. C'est le cas dans le Lot et Garonne, où elle a passé la barre des 50% de suffrage. Reportage dans le village de Cuc, qui est tombé lui aussi dans l'escarcelle du Rassemblement National. Hugo Charpentier s'y est rendu au lendemain du scrutin.
À deux pas de la magnifique église romane qui surplombe le village, une petite maison où vit Serge depuis plus d'un demi-siècle. Jamais il n'avait vu l'extrême droite arriver en tête dans sa commune.
Non, là c'est la première fois, quoi. Hein.
Muriel, sa voisine, n'en revient pas.
Mais parce que je comprends pas, en fait. Ici, on est dans un village tranquille, l'insécurité on connaît pas, les trafics on connaît pas. Qu'est-ce qui pousse les gens à voter à l'extrême droite aujourd'hui, ici, quoi?
Dans le village voisin, même score, l'extrême droite en tête. Sur un parking, un camion pizza.
C'est ouvert tous les soirs de la semaine.
Le propriétaire, c'est Loïc, 18 ans, il votait hier pour la première fois.
Moi, j'ai voté Marine Le Pen.
Et pour quelle raison?
Ça, en vrai, j'ai aucune idée.
Le programme de sa candidate, Loïc, ne le connaît pas. Ce qu'il souhaitait surtout, c'est une défaite d'Emmanuel Macron.
C'est hors de question, quoi. Déjà que la vie est chère, lui, il veut la rendre plus chère, quoi. Voilà, quoi. Déjà qu'on n'a pas forcément les moyens de faire les courses, l'essence, tout ça, il va encore plus augmenter, quoi.
Pouvoir d'achat en berne, sentiment de déclassement, voilà ce qui anime ces électeurs souvent jeunes qui ont choisi Marine Le Pen.
Je trouve ça dommage qu'elle soit pas passée, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses.
Eva, 27 ans, vendeuse en boutique.
Et je gagne le SMIC et je suis obligée de faire un deuxième travail parce que juste le loyer et les factures, ça passe pas, quoi. Faut revenir à l'essentiel, à la classe moyenne qui arrive plus à vivre.
Une classe moyenne qui, dans le Lot-et-Garonne, a décidé pour la première fois de se tourner vers l'extrême droite.
Hervé Lebras, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ce qui s'est passé là dans le sud-ouest?
Alors, faut pas dire dans le sud-ouest, je crois, parce que depuis le début, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne votent nettement plus pour le Front National. C'est vraiment la troisième zone. C'est une zone qui, alors, les explications sont... Il y a plusieurs explications possibles, mais ça se distingue beaucoup de... Si vous prenez les départements voisins du Lot, ou bien un peu plus au sud, vous allez, par exemple, vers le Gers, ou bien vers les Landes, le vote pour le Front National n'est plutôt relativement faible par rapport aux autres département. Mais depuis toujours, il y a eu une depuis 1984, il y a une spécificité de cette moyenne vallée de la Garonne. Et même quand je dis moyenne vallée, c'est pas vraiment les départements, c'est vraiment une sorte de couloir le long de la Garonne qui vote beaucoup plus traditionnellement pour le FN. Alors là, comme le vote a augmenté nationalement entre les deux présidentielles de l'ordre de 8%, bien sûr, si on peut dire, à ce moment-là, le Lot-et-Garonne vient de passer au-dessus de la barre des 50%. Les raisons sont...
Il y a des raisons historiques ou pas?
C'est un département et un aussi le Tarn-et-Garonne qui a une histoire compliquée. D'abord, c'est un département très pauvre. C'est parmi, disons, dans le sud-ouest, c'est un des plus pauvres avec le Tarn et Garonne, et c'est historique. Et disons, déjà dans les années 30, il y avait une pauvreté, on pourrait dire, épouvantable dans ce département où il y avait beaucoup de métayers. Et il y a eu, à cette époque-là, un très grand attrait du Parti communiste. Il y a un très grand leader communiste, Renaud Jean, qui a même été président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui était un fils de métayer et qui a été député de Marmande, par exemple, dans le Lot-et-Garonne. Donc il y a toujours eu un sentiment que, et on l'a entendu tout de suite, que la vie était difficile. C'est au fond ce qu'ont dit les interlocuteurs qu'on a entendu il y a un instant. Et puis il y a un autre aspect plus curieux. Il se trouve que le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, c'était deux départements où la fécondité au 19e siècle était devenue très faible. Et c'est un département non seulement qui se dépeuplait, mais les terres retournaient aussi à l'abandon. Et est arrivée la guerre de 14, les rares jeunes gens, beaucoup d'entre eux ont été tués, et donc en 1920, la France a fait venir à peu près 20 000 familles italiennes, dans l'idée que les Italiens faisaient beaucoup d'enfants à l'époque, ça allait regonfler la population du Lot-et-Garonne. Et donc une partie de cette population est au fond issue de l'immigration. Et il y a une tendance qui se vérifie aussi dans le nord de la France pour les descendants d'une de cette immigration européenne, par exemple les Polonais dans le Nord, a voté pour le Front National, a considéré que les nouveaux immigrés ne sont pas comme eux, qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion.
C'est quoi, c'est le principe du dernier arrivé, ferme la porte?
Oui, c'est aux États-Unis, c'est beaucoup plus net, bien sûr, mais ça joue, je pense, un petit peu en France. Et d'ailleurs, les leaders du Front National, notamment Jean-Marie Le Pen, jouaient sur cette fibre-là. Ils se vantaient, dans les années 90, d'être le parti qui avait le plus de descendants de l'immigration sur ses listes électorales.
Alors, on va partir maintenant à l'autre bout du pays, direction la Haute-Marne, où Marine Le Pen a recueilli près de 57% des voix. Là-bas, c'est peu de dire que ceux qui ont voté pour elle sont déçus. C'est un reportage d'Alain Gastal, du côté de Saint-Dizier.
Tenderville-Bienville, Marine Le Pen, 70,56%. Emmanuel Macron, 29,44%. C'est le record français, je crois.
Et au comptoir de l'unique bar du village d'Heurville-Bienville, le vote Le Pen, là aussi, est majoritaire, avec 3 clients sur 4, Dominique, Alain et Daniel, pas vraiment optimistes pour l'avenir.
J'espère qu'elle passera aux législatives, sinon Macron, il continuera comme il l'a fait jusque-là, et ça sera de pire en pire.
Vous savez ce que je vais faire, moi ? Ma carte d'électeur, je vais la brûler. Terminé, je ne voterai plus rien. Là, elle n'a pas passé là, j'y croyais trop. Là, c'est terminé. Il y en a marre. Les gens, ils comprennent rien. Ils vont avoir la retraite à 65 ans, 67 ans, et ils ont voté Macron. Oh, j'y comprends rien du tout.
On aurait dû essayer, qu'on essaye.
On va attendre que la petite nièce, elle se mette en route.
Si ça va pas, ben, ma foi, on la gicle, et puis c'est tout.
Et la patronne du Barrel aussi préférerait une autre présidente.
Moi, j'étais à commerce, on m'a promis des aides. J'ai eu zéro nada. Moi, c'est ça, Macron.
Et les charges qu'on ne devait pas payer, on est en train de les payer en ce moment-là. On paye 2 charges par mois maintenant. Non, Marie n'aurait pas fait mieux. Elle aurait laissé nos bars ouverts.
À quelques kilomètres, Eric, agriculteur, élève des bovins et des chevaux, cultive un peu de céréales pour les nourrir. Électeur et même militant du Rassemblement National, il ne comprend toujours pas pourquoi les mélenchonistes ont préféré Macron au second tour.
Les deux programmes, quand on les lit, on met les deux un à côté de l'autre, il y a quand même au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de plein de choses, ils se ressemblent. Et quand on voit que les mélenchonistes ont été votés Macron, on n'arrive pas à comprendre. Quand on en discute entre nous, on se dit mais à quoi ils pensent ?
Mais Eric continuera de militer pour les législatives où le Rassemblement National peut théoriquement espérer enlever les 2 circonscriptions. Sauf qu'ici aussi, les scrutins locaux sont plus difficiles car le RN n'a que très peu d'élus et moins de militants, reconnaît Laurence Robert-Dehaut, l'une des 2 seules conseillères départementales du mouvement.
Il faut dire aussi qu'on a pris une claque avec les départementales, hein, parce qu'on avait présenté des candidats pratiquement partout. On a fait une grosse campagne. Bon, bah, c'est les LR qui ont été élus principalement, parce que bon, la prime au sortant, on était en plein Covid. Ils ont été élus pour certains au deuxième tour avec le minimum, mais bon, il fallait bien des gagnants. Et du coup, on a été déçus. Pas moi la première, bien que j'étais élue, mais j'étais vraiment extrêmement déçue pour beaucoup de binômes qui s'étaient présentés, qui avaient travaillé très fort. Alors, c'est dur après de remotiver les gens. Hein. Bon, on y croit, mais bon, voilà.
Et en 2017, aux législatives en Haute-Marne, le Front National n'avait retrouvé qu'un tiers de ses électeurs du second tour de la présidentielle.
Un reportage d'Alain Gastal. Je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention, Hervé Lebras, notamment la question qui va suivre, hein, celle des législatives. Ce n'est pas parce que le score a été important à la présidentielle que c'est gagné pour la suite pour le Rassemblement National.
Non, c'est très différent. Les législatives et l'auditrice qui a parlé des cantonales et des départementales a totalement raison. Les législatives ressemblent beaucoup plus au cantonal parce que il y a
scrutin uninominal à 2 tours.
Voilà, et surtout avec le fait qu'il faut 12,5% des inscrits pour se maintenir, si bien que surtout aux dernières législatives où déjà le taux de participation était faible, de l'ordre de 50%, en fait il n'y aura presque uniquement des duels et il y aura quelques triangulaires sans doute. Et dans le cas des duels, les candidats des partis des deux côtés extrêmes sont désavantagés parce que c'est ce qui s'était passé pour les cantonales de 2015 que j'avais regardé avec attention. J'avais fait beaucoup de calculs sur ce cas-là parce que c'était très intéressant. On voyait que en 2015 il y avait l'extrême droite, presque uniquement le FN, mais était haut déjà. Elle était à un peu près 29%. La gauche était un peu mieux que maintenant à 37%. Et puis la droite était intermédiaire. Mais Pour les 2000 cantons, le résultat, ça a été, on pensait un peu qu'il y aurait un tiers, logiquement, si on était à la proportionnelle, ça n'a pas du tout été cela. Il y a eu 34 cantons pour le FN et il y en a eu 700 à peu près pour la gauche et 60% des cantons sont allés à la droite parce que quand il y avait un duel droite contre extrême droite, les votes de les électeurs de gauche, pas tous, mais une partie suffisante, votaient à droite pour faire barrage à l'extrême droite. Et puis quand il y avait un duel droite contre gauche, à ce moment-là, les électeurs de l'extrême droite soutenaient le candidat de droite pour éviter que la gauche passe. Donc
vous êtes en train de nous dire que c'est le centre qui gagne à tous les coups dans ce genre de
scrutin. Oui, dans ce genre, j'avais même baptisé donné comme sous-titre au petit livre que j'avais fait à l'époque dans la collection de Rosan Vallon, le sous-titre était « Tripartisme contre la démocratie ».
Ben voilà, tout est dit. Et pourtant, les oppositions comptent beaucoup sur ces législatives pour prendre leur revanche. C'est ce qu'on va voir à travers ce mix de l'actualité qui a été mis en onde par François Audouin.
Merci, chers amis. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français.
Emmanuel Macron réélu président avec plus de 58% des suffrages face à Marine Le Pen.
Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote mobilise.
D'ailleurs, dès son premier déplacement de président réélu, les habitants de Cergy le lui rappellent.
Vous savez très bien que vous n'avez pas été élu à l'unanimité. Les gens, ils ont voté contre Marine Le Pen.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
Je vois que les Français, en fait, n'ont rien compris et continuent à voter Macron. C'est que les gens qui ont de l'argent, parce que les gens qui sont dans la galère, ils votent pas pour Macron, je suis désolé.
Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
Tiens, revoilà Éric Zemmour, 7% au premier tour.
C'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen.
Je ne m'attendais pas à une attaque de sa part le soir du deuxième tour.
Louis Alliot, le maire RN de Perpignan.
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir d'alliance aujourd'hui pour les législatives.
Emmanuel Macron peut donc être rassuré, il n'y aura pas d'accord à l'extrême droite pour les législatives. Quant à la droite, ou ce qu'il en reste, elle se divise entre ceux qui sont prêts à rejoindre le président et les autres.
On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et Reconquête.
Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée.
La double appartenance n'existe pas.
Recomposition en cours à droite et à gauche, qu'en est-il ?
Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République.
Jean-Luc Mélenchon.
Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls.
François Hollande ne va pas jusque-là, mais il n'est pas plus tendre.
C'est une addition de votes utiles au premier tour et de votes de rejet au second tour.
Jean-Luc Mélenchon, lui, rêve de Matignon.
Le troisième tour commence ce soir.
L'Union populaire en position de force pour négocier, mais pas à n'importe quel prix, dit l'ancien président.
Jamais dans l'histoire de la gauche, on a eu ce type de comportement. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition.
Je crois qu'il faut reconnaître évidemment que la France insoumise est arrivée en tête, on ne va pas barguigner là-dessus.
Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, encore prêt à négocier. Yannick Jadot, beaucoup plus circonspect.
Si à un moment donné, cette coalition ne respecte pas l'identité de ses partenaires, ce sera sans moi.
Un champ de ruines que ce paysage politique.
Mais ça fout les boules quoi, c'est 5 ans.
Alors que beaucoup de jeunes de la génération climat se sont abstenus.
Sachant que les gens qui votent pour Macron, il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans, mais c'est ridicule. Et qu'eux, ils ne la verront pas, la société qui va s'écrouler, quoi. Ils ne la verront pas, les terres sans eau, les terres sans nourriture, les migrations, les pauvres gens qui migrent parce qu'ils crèvent la faim à cause du réchauffement, ils s'en branlent.
Et encore un grand merci à François Audouin. Une semaine en France en compagnie du démographe Hervé Lebras. Une réaction, Hervé Lebras, à ce qu'on vient d'entendre là ?
Oui, ça me paraît assez habituel. Chacun défend sa petite, non pas sa patrie, mais son parti. Je crois qu'on on va voir les choses se tasser. Il est intéressant d'ailleurs de reprendre les chiffres avant, plutôt que ces différentes font ces différentes déclarations. Par exemple, on sent très bien que les c'est fort de ces chiffres-là que Mélenchon a cette stratégie. Le Rassemblement National et Marine Le Pen, ils ont bien senti que Zemmour fera pas le poids avec ses 7%. Donc la partie de l'électorat de Zemmour qui a voté pour elle au second tour votera aussi pour elle. Il n'y a pas besoin de faire appel à Zemmour. C'est seulement à gauche que c'est plus compliqué. Mais à gauche, il faut quand même voir une chose. Quand on regarde bien, en 2017, la gauche avait fait 26%. Et là, elle fait un tout petit peu plus, en fait. Elle fait 28%. Alors, bien sûr, parce qu'elle est diversifiée. Il y avait que deux candidates qu'on pouvait classer à gauche. Là, maintenant, il y en a eu quatre. Mais quand même, donc, elle n'a pas fait ensuite aux législatives de si mauvais résultats. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont en train de s'empoigner, parce qu'ils savent qu'il y aura quand même un résultat.
Il y a quand même un gâteau à se partager, même s'il y a beaucoup de monde autour de la table. Mais... Ben oui, c'est ça. Un mot de la réforme des retraites, Hervé Lebras. Emmanuel Macron a répété tout à l'heure qu'il voulait la mettre en place, enfin il veut prendre le temps de la concertation, pour une mise en place à l'horizon 2023. Vous qui êtes démographe, c'est forcément un sujet qui vous intéresse. Cette réforme, est-ce qu'elle est justifiée du point de vue démographique?
Je pense qu'elle n'est pas très justifiée. Il faut vraiment regarder, se pencher sur les chiffres. Là aussi, il y a vraiment eu de la propagande électorale. Le 65 ans comme le 60 ans résiste mal. Il faut voir dans le détail, en fait, le vrai élément, c'est d'abord le nombre de trimestres de cotisation. C'est ça qui est vraiment très important. Donc, il a augmenté. Parce que selon qu'on entre jeune ou un peu plus âgé sur le marché du travail, ça change tout pour le point d'arrivée. Et puis d'autre part, il y avait eu il y a deux ans, jusqu'avant le Covid,
les perspectives d'espérance de vie.
Elle augmente un tout petit peu, mais elle a un tout petit peu baissé. Enfin, pas énormément, elle avait baissé d'une demi-année en 2020. Elle a remonté à peu près au niveau où elle était avant la crise. Mais que sera-t-elle? On pense quand même, les démographes pensent que elle avancera moins vite, elle augmentera moins vite que par le passé. On voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où depuis une dizaine d'années, avant même, bien sûr, le Covid, l'espérance de vie a plafonné, puis commencé légèrement à diminuer. Alors, bien sûr, les systèmes de santé sont très différents, les inégalités sont très différentes, mais je pense que je l'avais écrit à l'époque des premières discussions sur les retraites, les estimations faites par le comité d'orientation des retraites sur l'évolution de l'espérance de vie étaient trop optimistes. Et ça compte beaucoup dans l'équilibre du système. Et d'ailleurs, le corps est revenu en arrière récemment et au fond, on serait pas loin de l'équilibre malgré tout. Donc là-dedans, il y a eu beaucoup de politique, c'est-à-dire Macron j'ai été très surpris dans un premier temps qu'il parle de ses 65 ans, c'était un JT le chiffon rouge pour la gauche, mais son but c'était de taper sur la droite. Et la gauche, il ne la craignait plus, elle était réduite, elle était nanisée, il pouvait rien faire avec Mélenchon, il allait pas convertir directement les troupes de Mélenchon. Donc il fallait prendre la droite. Et Pécresse, d'ailleurs, lui a facilité le travail en allant vers l'extrême droite. Mais ensuite, vous l'avez vu, arriver entre les deux tours, cette fois-ci, c'est à la gauche qu'il fallait parler. Alors, il y a eu une rétrogradation, 64 ans, et puis il y a eu des tas de considérations. Oui, la pénibilité. Donc la discussion va reprendre, mais j'espère qu'elle reprendra sur des bases sérieuses où tous les éléments seront mis les uns à côté des autres. C'est très compliqué.
Alors, à propos de l'espérance de vie et du Covid. La nouvelle doyenne de l'humanité a eu le Covid, mais elle se porte bien, hein, Hervé Lebras. Cette doyenne, c'est Sœur André, elle a 118 ans. Elle était déjà la doyenne des Européens, elle est désormais la doyenne de l'humanité depuis le décès de la japonaise Kane Tanaka, qui avait 119 ans. Sœur André Lucille Randon, à l'état civil, est née le 11 février 1904 à Alès, dans le Gard. Elle ne serait pas fâchée de faire aussi bien que Jeanne Calment. Elle vit aujourd'hui dans un EHPAD de Toulon. Les précisions de Sophie Glotin de France Bleu Provence.
Sœur André avait 10 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Elle a connu 18 présidents de la République et a pris officiellement sa retraite il y a 52 ans. Officiellement, car Sœur André s'est occupée jusqu'à ses 100 ans des autres pensionnaires de la maison de retraite. Car voilà un de ses secrets de longévité, le goût des autres et le don de soi.
Ben oui, chacun a des besoins. Je me suis sacrifié bien des fois et je l'ai fait avec joie et plaisir.
Les plaisirs, justement, la Toulonnaise ne se prive de rien, comme nous le raconte David Tavella, le porte-parole de l'EHPAD Sainte-Catherine-Labouré.
Oui, un petit peu de porto, un verre de vin tous les midis et de l'eau pétillante le soir. Apparemment, ce serait son secret à elle.
Née dans le Gard dans une famille protestante, Lucille Randon, pour l'état civil, est entrée dans les ordres à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, elle pense que Dieu l'a tout simplement oubliée et malgré sa cécité et des journées parfois un peu longues, elle espère qu'il ne l'appellera pas tout de suite, car à 118 ans, Sœur André s'est fixé un nouvel objectif.
Celui de dépasser Jeanne Calment, la titille aussi un petit peu. Hein.
Ah oui, mais ça sera peut-être pas simple, hein, Hervé Lebras, on verra bien.
On verra bien, mais parce qu'il y a encore 3 ans à tirer. Mais il faudrait, puisque c'est une sœur, dans la Bible, à un moment donné, dans la Genèse, Dieu se met en colère, comme souvent d'ailleurs dans l'Ancien Testament, et il trouve que ces gens-là vivent trop vieux, ces prophètes-là, il y a Mathusalem, il y a tout ça, et il dit « Désormais, plus personne ne vivra plus de 120 ans ». Donc cette religieuse devrait relire la Genèse, elle peut avoir du mal à rattraper... Jeanne Calment, et pendant très longtemps, on a pensé que c'était un âge limite, parce que quand on prolongeait les courbes de mortalité, elle passait à 100%, arrivée à 120 ans. Donc il y a eu toute une littérature sur ce sujet.
Voilà, en tout cas, le défi est à relever, et peut-être qu'elle le fera.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Il est 18h43, c'est l'heure de la chronique de Vincent Martini, professeur de sciences politiques, chroniqueur à l'Hebdo Le 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui vous allez nous parler des départements et régions d'outre-mer qui ont majoritairement voté pour Marine Le Pen le 24 avril. Une surprise venant de ces territoires multiculturels où Jean-Luc Mélenchon avait cartonné au premier tour.
Une surprise pour le grand public Claire et un choc pour tous ceux qui connaissent bien ces territoires ou qui en sont originaires et qui vivent dans l'Hexagone, c'est d'ailleurs le cas de votre serviteur.
Réunionnais,
absolument.
Pour tout dire.
Rien ne s'oppose à la nuit, a tweeté l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau en faisant une référence à une chanson d'Alain Bachung et en faisant une liste de raisons qui expliquent le vote massif autour de 60% en moyenne en faveur de Marine Le Pen.
Et justement, ces raisons, quelles sont-elles ?
Eh bien, la plupart sont communes aux 5 départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane côté Amérique, la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. La question sociale, d'abord, dans des territoires plus pauvres et plus inégalitaires que dans l'Hexagone, dans lequel la demande de protection par l'État est forte, et où le retrait des services publics a des conséquences plus lourdes sur la vie quotidienne des habitants, comme en témoigne le scandale de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Rappelons également que le taux de chômage dans ces régions figure parmi les plus importants d'Europe, que le revenu moyen de 30 à 50% plus faible que dans le reste du territoire national, et que les prix des biens de consommation courante sont plus élevés du fait de situations de monopole et de l'octroi de mer, ces fameux impôts qui financent les collectivités territoriales. La pandémie a en outre été durement ressentie dans des îles où le confinement et la quasi-obligation vaccinale ont réveillé des souvenirs douloureux de privation de liberté durant l'esclavage et la colonisation, nourrissant la défiance déjà extrêmement élevée envers les institutions.
Et la question migratoire a joué un rôle également ?
Eh bien absolument. Une grande partie de l'immigration clandestine entre sur le territoire national par les DROM, les départements-régions d'outre-mer, où s'exprime un ras-le-bol, voire des réflexes xénophobes à l'encontre des Surinamiens en Guyane, des Haïtiens aux Antilles et des Comoriens à Mayotte et à La Réunion. Si l'on ajoute à cela le sentiment d'être méprisé par les autorités nationales, dont le paternalisme a atteint des sommets depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on mesure à quel point la situation est propice à un vote anti-système.
D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont multiplié les attentions envers les DROM durant la campagne.
Et cet engagement ne date pas d'ailleurs d'hier. La thématique de la créolisation, chère à Jean-Luc Mélenchon par exemple, s'inspire directement du penseur antillais Édouard Glissant. Et Marine Le Pen ne cesse de rappeler son attachement à ces territoires français depuis plusieurs siècles. Leur attitude tranche avec l'indifférence généralisée qui prévaut au sommet de l'État et qui est de loin le plus grave des maux que connaissent les DROM.
La situation des Outre-mer est vraiment singulière ?
En réalité, elle n'est pas tant que ça. Les 5 DROM sont en réalité une loupe grossissante des colères et des angoisses sociales et culturelles françaises, puisque tout y est plus visible qu'ailleurs, mais aussi des espoirs et des attentes de nos compatriotes vis-à-vis de la République. Pour y faire face, il n'est pas suffisant de clamer son amour de l'outre-mer ou au contraire de brandir la menace d'une autonomie qui n'est pas désirée localement, comme les acteurs politiques au pouvoir ont trop souvent tendance à le faire. Il faut au contraire faire des départements d'outre-mer des laboratoires de la modernité française plutôt que de les présenter comme des fardeaux. Ce n'est qu'en remettant à plat les politiques publiques, en associant les populations locales aux décisions qui les concernent et en tissant un nouveau lien entre les élus et l'État central, là-bas d'ailleurs comme ici, que la situation pourra évoluer. Si une nouvelle impulsion n'est pas rapidement mise en œuvre, alors rien vraiment en 2027 ne pourra plus s'opposer à la nuit.
Merci beaucoup Vincent Martini. Hervé Lebras, vous voyez l'écouter avec attention.
Oui, non, c'est un cas extrêmement intéressant parce que c'est toute la question des reports des votes, des 22% de votes pour Mélenchon. Là, on a un cas extrême, étant donné les chiffres, une grande partie des votes Mélenchon sont devenus au second tour des votes Le Pen. Mais c'est l'inverse dans un certain nombre d'endroits en France, mettons à Paris, où Mélenchon a eu de très forts scores. Le Pen a, quand on fait Le Pen plus Zemmour à Paris, on arrive pratiquement à ce qu'elle a eu au second tour. Donc elle n'a eu pratiquement aucun renfort de Mélenchon et la montée très forte de Macron est nécessairement due à des électeurs de Mélenchon. Donc quand on lit des résultats d'enquête électorale sur les taux de report des différents partis, ça n'a pas grand sens. Il faut dire de quel territoire on parle. Et voyez que pour le cas des Dom-Tom, eh bien, c'est l'inverse de ce qui se passe dans un certain nombre de grandes villes en France, pas dans toutes.
En tout cas, sur Paris, c'est vraiment flagrant. On dirait une photo en négatif, hein, Zemmour et Mélenchon. Oui. C'est vraiment incroyable. Et Zemmour, ça m'amène évidemment à votre livre. Il n'y a pas de grand remplacement chez Grasset, Hervé Lebras. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là? Parce qu'il y a des gens qui y croient vraiment?
Écoutez, quand je l'ai écrit, il y avait une enquête qui était parue dans l'hebdomadaire Challenge, qui est un hebdomadaire sérieux, qui montrait que 61% des Français, dans un sondage, un petit sondage classique d'un millier de personnes, avaient répondu qu'elles croyaient à la possibilité du grand remplacement. Alors, bon, la question était posée de façon un petit peu à avoir cette réponse, mais quand même, 61%, c'est énorme. Et d'ailleurs, Zemmour et ses troupes ont tout de suite repris le résultat de cette enquête. Et à ce moment-là, j'ai été contacté par les éditions Grasset pour, au fond, faire le bilan, voir est-ce que vraiment il y avait ce risque-là. Et de la même manière, en même temps que moi, un historien, Laurent Joly, a été contacté à propos de ce que Zemmour avait raconté sur la soi-disant bénévolence de Pétain, oui, par rapport aux Juifs. Donc du coup, à l'époque, il faut quand même voir que c'était au mois de novembre et Zemmour était en train, talonnait Marine Le Pen et a même à un moment donné dans les sondages fait pratiquement jeu égal à 16%. Ensuite il a été décramponné par l'affaire ukrainienne, mais il y avait un véritable risque et c'était son slogan majeur, il le répétait et ses troupes le répétaient. Donc j'ai fait un livre simplement, je dirais pas...
Ah bah qui décortique la réalité,
oui,
qui montre par A plus B
reprend,
la réalité des choses.
Oui, qui reprend ce qui est déclaré notamment par le prophète. Je me suis pas du tout attaqué à Zemmour en tant que tel, mais à celui qui est l'inspirateur de Zemmour, Renaud Camus. Donc j'ai lu ses livres, j'ai noté, j'ai vérifié ses citations, etc. Et j'ai essayé de voir quelle était la cohérence. Et puis ensuite, j'ai fait un travail de démographe. Est-ce que c'était possible que la population de non-immigrés devienne en une génération minoritaire? C'est totalement invraisemblable. J'ai cherché à ne pas accumuler les chiffres, mais j'ai donné des références. Peut-être je peux en donner juste une qui montre l'absurdité de ce genre de prétention au grand remplacement. L'INSEE fait des très bons recensements chaque année, donc on sait combien il y a d'immigrés chaque année. Quand on regarde depuis 2006, en moyenne, la population immigrée augmente, mais elle augmente en moyenne de 120 000 personnes par an. D'ici à ce qu'elle devienne majoritaire parmi les 67 millions de Français, on pourra attendre très longtemps, mais peut bien sûr, c'est comme toute prévision, il peut y avoir des bouleversements incroyables,
mais c'est pas le
vraiment
cas.
Incroyables.
Oui. Mais c'est pas le cas pour l'instant.
Oh, pas du tout.
Allez, on va faire un petit tour en Belgique et puis on se retrouve juste après.
Je ne suis pas un nationaliste, j'ai pas les cuisses de ces cyclistes, j'ai trop froid pour être unitiste. Allez, allez, circulez avec mon cul de vieux pépé. J'aime les femmes et j'aime les autres. Et comme j'ai déjà dit, vive les petits zézés. Putain, putain, ce vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Oh. Tolles Estegen, Langeden, du Tüfaben, Gatne Klitsch, Motschit, Vare! Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Wow. The rich may be rich and the poor may be poor. They all have two holes in their nose. Bye-bye Brexit, bye-bye Brexit. We're still gonna eat fish and chips. C'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Voilà, c'était donc Arnaud, hommage de Djoubaka au chanteur belge décédé samedi dernier.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie du démographe Hervé Lebras. Hervé Lebras, on va voir comment vous êtes devenu démographe, tout simplement. Alors, puisque vous aimez les cartes, on va vous situer sur une carte. Vous êtes un vrai Parisien, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez grandi entre la place du Panthéon et la montagne Sainte-Geneviève, au cœur de la capitale. Votre père était professeur de droit, Hervé Lebras, doyen de la fac de droit. Vous avez commencé par là. Vous avez fait droit, sciences éco, avant de bifurquer vers les mathématiques. J'ai cru comprendre que c'était une vraie passion, les maths.
Oui, j'aime beaucoup les mathématiques. Alors, vrai Parisien, oui, bien sûr de naissance, mais mon père était né à Paimpol. Hein,
l'ascendance bretonne, ça reste essentiel.
Je suis un tombre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un tombre? Ben, c'est comme un beurre. Beurre, c'est l'anagramme d'arabe, et tombre, c'est l'anagramme de breton. Donc,
voilà. Vous avez fait Mathsup, Mathspé, et vous avez intégré Polytechnique. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est votre nature d'insoumis, de rebelle qui a eu du mal à s'adapter à cette école?
Oui, bon, à l'époque c'était un régime très militaire qui était un peu ridicule, je dois dire. Et donc j'ai eu beaucoup de conflits avec les militaires parce que, mettons, je travaille tard et il fallait les feux étaient éteints, comment dire, à 10h15 du soir, fallait aller au lit, oui, des choses de ce genre-là. Il y avait, bon, c'était vraiment ce qu'on reproche souvent à l'armée, c'était ridicule dans la mesure où à un seul des 320 élèves de ma promotion est entré dans l'armée ensuite, donc ça n'avait pas de sens.
Alors vous avez choisi les sciences sociales et vous êtes d'ailleurs parti au Tchad pendant quelques temps.
Quelques mois, oui.
Pour faire de l'ethnologie.
Sous la responsabilité d'un anthropologue, j'ai été au centre du Tchad, mais j'étais chargé d'accompagner une enquête sur la consommation. C'est une époque où la population dans laquelle je suis arrivé, les Massa, n'avaient pratiquement eu aucun contact sérieux avec la civilisation. Il n'y avait pas de bien de la civilisation. Et j'étais extraordinairement intéressé par au moins deux choses dans cette population. C'est un, justement, un certain sentiment de bonheur, il faut bien le dire, malgré des choses, des maladies, beaucoup plus graves qu'en France. Et puis aussi, c'était ma grande surprise, après tout, c'était peut-être mon année en sciences économiques, c'est que c'est des gens qui raisonnaient économiquement très bien. Ils voyaient bien les tenants et les aboutissants. Et au fond, je me suis dit, souvent, dans notre pays, c'est trop compliqué de voir les tenants et les aboutissants. Regardez dans cette campagne électorale, il y a des tenants et des aboutissants qui sont, si on distribue de l'argent comme il en a été promis, il va bien falloir le trouver, cet argent. Et en même temps, on dit, on va baisser les impôts. C'est ce genre d'inconséquence économique. Eh bien, chez les Massa, où j'étais, au centre du Tchad, ils n'avaient pas cette inconséquence économique. Ils voyaient très bien le rapport entre ce qu'on pouvait produire, ce qu'on pouvait consommer, ce qu'on pouvait échanger. Ça a été une leçon parce que j'étais parti avec l'idée qu'ils vivaient dans des mythes et puis dans des systèmes de parenté. Bien sûr, ils faisaient ça aussi, mais en même temps, il y avait au fond une très grande capacité économique. Et plus tard, j'ai été lié avec justement des anthropologues comme Maurice Godelier qui ont fait très attention à l'aspect économique des sociétés dites primitives ou premières maintenant.
Voilà, puis après vous avez fait une longue carrière à l'INED, à l'EHESS. Vous avez écrit un nombre de livres absolument incroyables. Alors, je ne sais pas, il y en a une cinquantaine, une soixantaine. À quoi ressemble une journée d'Hervé Lebras ? Vous avez une minute pour me raconter. Vous êtes dans les cartes, dans les chiffres dès le matin en vous réveillant ?
Difficile à dire. D'abord, une grande partie de ma journée, il faut bien le savoir, j'écris des livres, mais surtout, je travaille sur les données. Et c'est là que ma formation de polytechnicien me sert, surtout d'ailleurs après les mathématiques que j'ai faites à la sortie de Polytechnique, et je fais beaucoup de programmation, de modèles, d'informatique, je triture les données. Donc une partie de ma journée se passe à pester contre l'ordinateur, parce qu'il ne répond pas à mes attentes, ou bien parce que de temps en temps il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Donc et puis une autre partie, c'est en lecture, et puis une troisième partie, c'est quand même en prenant des cafés, et puis en rencontrant des amis. Il ne faut pas croire non plus que, même en écrivant beaucoup de livres, on est un travailleur sans arrêt à sa table de travail.
D'ailleurs, ça me rappelle le titre d'un de vos livres, « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Finalement, on n'est pas si malheureux que ça dans notre pays.
Je pense que le problème de notre pays, justement, est que si on regarde un certain nombre, je dirais pas de réalité, mais de faits, et il y en a, on les mesure bien, notre pays ne se porte pas si mal que ça, mais même en plus de ça, si on le compare à ce qu'il était dans les années 50, dans les années 30, il y a quand même eu de très grands progrès. Et le vrai problème, c'est plutôt dans la tête des Français, pour moi. Ils ont vraiment le sentiment que les choses ne vont pas bien, alors ça serait trop long d'entrer dans des explications. Il y a des explications, et souvent dans des grands auteurs, y compris même on en trouve chez Tocqueville, à cette sorte de morosité des Français, qui s'est exprimée d'ailleurs dans les urnes dimanche dernier.
En tout cas, votre dernier livre, Hervé Lebras, c'est « Il n'y a pas de grand remplacement », c'est chez Grasset. Je ne saurais que le conseiller parce que c'est très sympathique, c'est très drôle en plus. Il y a plein de références littéraires, il y a des chiffres, il y a tout ce qu'il faut pour une contre-démonstration. Hervé Lebras, vous ne partez pas parce qu'on se retrouve ensemble après le journal de 19h pour « Le téléphone sonne ».